Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Appel à une vie digne pour tous, à ce que soit respectée la liberté religieuse. Le pape François a accueilli, écouté, encouragé les patriarches et archevêques majeurs des églises orientales catholiques. Nous ne pouvons, dit-il, imaginer un Proche-Orient sans la présence des chrétiens. La matinée fut donc consacrée aux églises orientales, le début d'après-midi aux Philippines. Le pape est allé à la rencontre dans la basilique Saint-Pierre des Philippins vivant à Rome et rassemblé ce jeudi pour une messe célébrée par le cardinal Taglé, l'archevêque de Manille. Autre temps fort ce jeudi, à l'occasion de la journée des religieuses cloîtrées, le pape François s'est rendu en début de soirée sur l'Aventin à la rencontre de moniales bénédictines. Vous entendrez l'une d'entre elles. Et puis, enfin dans ce magazine, témoignage d'une membre de la Caritas. Elle revient de Centrafrique, un pays au bord du génocide, selon le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine en langue française de Radio Vatican, matinée placée sous le signe des chrétiens d'Orient. Ce jeudi, au Vatican, le pape François a accueilli les patriarches des églises orientales catholiques et les archevêques majeurs dans la salle du consistoire. Monseigneur Foitoile, patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Ignatius Yves III Younan, patriarche d'Antioche des Syriens, le patriarche copte d'Alexandrie, sa béatitude Ibrahim Isaac Sidrak ou encore le cardinal Béchar Araï, patriarche des Maronites. Ils viennent d'Orient, d'Inde, d'Europe orientale, Syro-Malabar, Chaldéens, Gréco-Melkites. Les patriarches et archevêques majeurs ont tour à tour pris la parole pour décrire au pape la situation dans laquelle vivent leurs communautés. Près de 1000 morts pour le seul mois d'octobre en Irak. L'émigration menace notre présent et notre avenir. Nous craignons beaucoup pour notre survie, a confié le patriarche chaldéen Louis-Raphaël Ier Sacco. Nous avons besoin de plus de soutien de la part du Saint-Siège. Face au chef des églises orientales, le pape leur a parlé en petit comité, un premier discours, avant de recevoir à la mi-journée les participants à l'assemblée plénière de la Congrégation pour les Églises orientales. L'occasion pour lui, Xavier Sartre, de revenir sur les problèmes, les défis de ces églises.
L'évêque de Rome ne cessera pas ses efforts tant qu'il y aura des hommes et des femmes, quelle que soit leur religion, qui sont touchés dans leur dignité, qui sont privés du nécessaire pour survivre, qui sont contraints à tout quitter et à qui on a volé leur avenir. Le ton est donné. Chaque catholique a une dette de reconnaissance envers les églises qui vivent en Orient, surtout au Proche-Orient, où les conditions de vie des chrétiens préoccupe grandement le pape. D'où cet appel réitéré afin que le droit de tous à une vie digne et la liberté religieuse soient respectés. Nous ne nous résignons pas, lancer le pape François, à voir le Proche-Orient sans chrétiens et d'exhorter toute l'Église à la prière qui sait obtenir du corps miséricordieux de Dieu la réconciliation et la paix. De ces situations douloureuses, le pape a tenu à souligner la vitalité renaissante de ces églises qui furent longuement opprimées sous les régimes communistes en ce qui concerne les églises d'Europe orientale, le dynamisme missionnaire des églises qui se réfère à la prédication de l'apôtre Thomas, la persévérance de celles qui vivent au Proche-Orient, assez souvent dans la condition de petits troupeaux, dans des environnements marqués par l'hostilité, les conflits et des persécutions cachées. Ces églises orientales sont ainsi source d'enseignement pour toute l'Église, a également expliqué le pape. Nous pouvons apprendre d'elles la patience et la persévérance, le difficile exercice quotidien de l'esprit œcuménique et du dialogue interreligieux, deux thèmes essentiels du Concile Vatican II qui étaient au cœur de cette assemblée plénière.
Et donc auparavant, c'est au seul patriarche et archevêque majeur que le pape s'est adressé. Il a insisté sur l'importance de la communion ecclésiale, leur demandant d'être des exemples pour leur communauté.
Oui, et il a insisté sur l'unité ecclésiale qui trouve son expression naturelle et pleine dans l'union indéfectible avec l'évêque de Rome. Être inséré dans la communion de l'entier corps du Christ nous rend conscients du devoir de renforcer l'union et la solidarité au sein des divers synodes patriarcaux, a rappelé le pape. Il a également rendu hommage au patrimoine spirituel de l'Orient chrétien et à ses interlocuteurs en les qualifiant de gardiens vigilants de la communion et de serviteurs de l'unité ecclésiale. Autre point important de ce discours, les conseils que le pape a donnés aux patriarches, les invitant à rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur afin que leur témoignage soit crédible. Sans oublier un style de vie sobre, à l'image du Christ, un zèle infatigable et cette charité fraternelle et paternelle que les évêques, les prêtres et les fidèles, spécialement s'ils vivent seuls et en marge, attendent de nous. Les patriarches doivent donner ainsi l'exemple pour soutenir leurs prêtres. Ils doivent aussi gérer de manière transparente leurs biens et avoir toujours de la sollicitude envers chaque faiblesse et nécessité.
Merci Xavier Sartre. Le patriarche Melkite, qui réside à Damas en Syrie, souhaiterait que de cette rencontre naisse un organe consultatif permanent avec le pape. Il l'a dit avant cette rencontre de ce jeudi, il aimerait pouvoir parler tous les deux ans avec le Saint-Père des conflits au Moyen-Orient, de la question palestinienne, mais aussi des questions fondamentales du rôle des chrétiens au Proche-Orient. Monseigneur Grégoire Troislam s'est dit reconnaissant pour le synode sur le Proche-Orient organisé en 2010 au Vatican par Benoît XVI, 2010, juste avant le début du conflit en Syrie. « Je pense, dit-il, que la providence divine l'a voulu. En effet, grâce au synode et au document final, nous sommes parés pour les temps difficiles. » Et puis soulignons que dimanche prochain, chaldéens, syro-malabar, gréco-melkites et maronites, les patriarches s'uniront au pape pour la messe de clôture de l'année de la foi en la solennité du Christ-Roi. Ce sera un signe, écrivent-ils dans un communiqué, de leur volonté de vivre en profonde communion avec le successeur de Pierre, la mission confiée par le Concile Vatican II à leur Église, à savoir témoigner avec générosité de la foi et favoriser l'unité des chrétiens, en particulier des chrétiens orientaux. Dans l'après-midi, le pape François s'est d'abord rendu à la basilique Saint-Pierre pour rencontrer les Philippins vivant à Rome et réunis à l'occasion d'une messe présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, l'archevêque de Manille. La célébration était donnée en l'honneur de Saint Pedro Calungsod, un jeune missionnaire philippin du XVIIe siècle mort en martyr, canonisé en 2012 par Benoît XVI. Le 24 novembre prochain, à l'occasion de la messe conclusive de l'année de la foi dont nous venons de parler, une collecte sera effectuée place Saint-Pierre au profit des victimes du typhon Haiyan qui a récemment ravagé l'archipel des Philippines. Sur place, les pêcheurs notamment ont été rudement touchés. Avec le passage du typhon, des vagues de plusieurs mètres de haut ont balayé les plages, emportant les flottilles. Christophe Vavasseur, coordinateur de mission aux Philippines pour l'ONG Solidarité Internationale, il revient sur leurs conditions.
Qu'ils soient pêcheurs, agriculteurs, enseignants, ils sont aujourd'hui tous lotis à la même enseigne. Ils ont besoin de manger, de boire, de s'abriter. Et les problématiques sectorielles vont émerger petit à petit. Et ce sera le temps, effectivement, d'avoir des approches plus spécifiques par population, par catégorie de population. Indéniablement, c'est un corps de métier et un secteur qui sera touché et qu'il faudra aider de façon assez massive au moment du redressement, en leur redonnant les moyens de pêcher, en nettoyant les fonds marins. Mais voilà, d'abord, il faut nettoyer. Et dans un deuxième temps, on saura effectivement sectoriellement comment donner une aide plus pérenne aux pêcheurs, parce que c'est effectivement une vraie problématique aux Philippines.
Et nous parlons des pêcheurs à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche. C'est ce jeudi. Le Vatican demande des garanties pour les pêcheurs qui représenteraient la moitié des victimes du typhon Haiyan. Le Saint-Siège demande à tous les gouvernements intéressés de ratifier un traité international pour offrir des garanties de sécurité, de conditions de travail dignes, non seulement bien sûr aux pêcheurs philippins, mais aussi aux pêcheurs du monde entier. Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants a également annoncé la création d'un fonds en faveur des gens de la mer, plus précisément philippins. Ce jeudi, journée dédiée aux religieuses cloîtrées, à cette occasion, le pape s'est également rendu en fin d'après-midi dans le monastère Camaldule de Saint-Antoine-Abbé, un monastère situé sur la colline romaine de l'Aventin, pour y célébrer en compagnie des moniales ainsi que des moines du monastère voisin de Saint-Grégoire de Celio la célébration des vêpres. Et pour ne pas bouleverser la vie de la vingtaine de sœurs venant du monde entier, notamment d'Inde, d'Espagne, de Corée ou de Pologne, des sœurs qui suivent la règle de Saint-Benoît, le pape fut accueilli par l'abbesse avant de se rendre dans la chapelle pour l'office des vêpres selon la règle Camaldule. Sœur Martha en était religieuse depuis 11 ans. Elle revient sur les propos du pape lors de l'audience de ce mercredi. François remercie les religieuses pour leur prière silencieuse mais active.
On choisit une vie parce que c'est ta vie, c'est ça. Peut-être ce qui serait bien à comprendre tout le monde, c'est que vraiment chacun et chacune, chaque chrétien a le droit, le devoir de la prière et de la contemplation. C'est pas un fait pour spécialistes. C'est peut-être ça. Alors la division entre vie active, vie contemplative, vie dans un monastère ou dans une famille ou dans un travail ou tout ça. Bon, évidemment, chaque voie de vie a sa propre spiritualité, mais pas avec des murailles entre l'une et l'autre. Alors c'est peut-être ça, que l'une soit de quelque façon d'inspiration pour les autres. C'est ce que j'aimerais. Mais je crois que c'est comme ça. Alors c'est un peu plus facile de dire, bon, il y a quelqu'un qui a la profession de prier pour toute l'Église, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Tout le monde a le devoir, la responsabilité de prier l'un pour l'autre.
Vous avez différentes maisons qui dépendent de votre monastère un petit peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Est-ce que vous constatez là une différence d'approche par rapport à l'Italie et à l'Europe plus généralement ?
J'ai jamais été en Afrique, donc je ne sais pas directement. Je vois mes sœurs qui sont ici. Bon, évidemment, elles ont une autre façon. Et c'est elles-mêmes qui maintenant développent leur voie monastique en Afrique, qui trouvent leur façon d'être dans leur territoire, dans leur église locale, dans l'église particulière, enfin quoi. Et au Brésil, c'est différent. Nous avons des sœurs tanzaniennes qui conduisent la communauté au Brésil. C'est elles qui sont missionnaires au Brésil. Et bon, elles doivent avoir affaire à une église différente, une société différente, une culture différente. Donc il y a aussi un dialogue entre différentes voies et manières de vivre la vocation monastique.
Est-ce que vous aussi, vous êtes bien inséré, même si vous vivez dans un monastère, dans la vie locale ?
On n'est pas coupé du monde, non, ça certainement pas. On est quand même dans le monde. On a aussi dans ce monastère, nous avons beaucoup d'occasions de contact avec des gens. On en a des rencontres, des gens qui viennent. Et nous aussi, on va pour des cours, pour des choses à l'extérieur. Donc, il y a un certain exchange assez fréquent, quoi. En plus, le monde vient dedans avec nous. Il y a des femmes qui viennent, des jeunes femmes qui viennent qui pour rentrer dans le monastère, des vocations, et c'est le monde, c'est nous-mêmes qui sommes le monde.
Sœur Martha, religieuse du monastère Camaldul de Saint-Antoine Abbé. L'Église et la famille de toutes les générations doit y régner la gratuité et l'amour et non le profit et l'avoir. Chacun doit y être chez soi, y compris les personnes âgées. Messe de lancement ce jeudi matin dans la basilique Saint-Pierre de la 28e conférence internationale sur l'Église au service des personnes âgées malades, le soin des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Dans son homélie, le président du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé a estimé que la personne âgée devait être respectée, à commencer par sa propre famille. Monseigneur Zimowski estime que c'est là le moyen de repousser avec fermeté l'idée d'un euthanasie pour les personnes âgées. Monseigneur Zygmunt Zimowski a donc donné le coup d'envoi de cette 28e conférence internationale sur l'Église au service des personnes âgées malades. Pendant 3 jours, de nombreux chercheurs, médecins, personnels ecclésiaux et sanitaires ou encore volontaires, tous opérant dans le milieu de l'assistance aux personnes âgées, vont échanger au Vatican et débattre. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines émissions. Le président centrafricain, arrivé au pouvoir par les armes en mars dernier, assure qu'il n'a aucune envie de se maintenir au pouvoir car la gestion des problèmes du pays, plongé dans le chaos, l'empêche de dormir. Depuis le renversement du président Bozizé par la rébellion du Séléka, aujourd'hui dissoute, la Centrafrique est en effet livrée à une insécurité généralisée. Le pays est au bord du génocide, ce sont les mots du chef de la diplomatie française. Selon Laurent Fabius, c'est le désordre absolu. Vous avez 7 chirurgiens pour 5 millions d'habitants, une mortalité infantile dans certains coins du pays de 25%, 1,5 million de personnes qui n'ont rien, même pas à manger. À Bangui, la capitale, les pillages, meurtres, autres braquages se multiplient et se font désormais en plein jour, au vu, au su de tous. Et plus au nord, à 300 km de Bangui, à Bossangoa, 41 000 personnes sont regroupées en ce moment dans la mission catholique. Ces villageois ont dû fuir leur domicile de peur d'être victimes des exactions et exécutions sommaires commises par d'anciens membres de la Séléka. Promiscuité, conditions sanitaires déplorables, crise alimentaire. Une situation jugée indigne par l'archevêque de Bangui, Mgr Zapalenga, s'est rendu sur place accompagné de Valérie Caillé, chargée de communication de la Caritas Internationaliste. En Centrafrique, je vous propose d'écouter son témoignage.
Bossangoa, je crois que c'est vraiment un cas très particulier et impressionnant parce que on a traversé la ville et donc la ville est vide. Il y a pratiquement 2200 maisons qui ont été bombées. il y a 41 000 personnes qui se sont réfugiées dans le centre catholique de Bossangoa. Ce que vous voyez dans ce centre, c'est absolument impressionnant parce que vous rentrez et partout, il y a des gens. 14 000 enfants, 41 000 personnes, dans un espace de 19 hectares. Donc je ne sais pas comment vous pouvez vous imaginer, mais partout où on va, il y a des gens. Moi, j'ai dormi dans le centre d'accueil de Bossangoa. J'ai dû mettre 20 minutes pour arriver à ma chambre parce que les gens étaient allongés par terre. On est arrivé le soir. Avec une torche, j'ai dû essayer de faire un parcours comme sur un champ de mine pour ne pas écraser une main, un pied ou des gens. Partout des gens. Et en 3 jours, 500 personnes sont arrivées. Même le parking est rempli de gens. C'est absolument hallucinant.
Plus de 40 000 personnes qui vivent, on l'imagine, dans des conditions alimentaires et sanitaires désastreuses.
Il y a quelques semaines, on comptait 5 personnes qui mouraient chaque jour dans la mission. Les conditions sont légèrement améliorées, j'insiste sur légèrement, parce que maintenant, il y a plus de 2 personnes qui meurent. Il y a eu une intervention, on a essayé de mettre des latrines, d'améliorer les conditions sanitaires, mais ça reste extrêmement précaire. Aujourd'hui, heureusement, c'est une bonne nouvelle, il y a des kits d'hygiène qui sont arrivés pour la première fois pour couvrir 48 000 personnes. Donc c'est la première fois qu'il y a vraiment une assistance qui est à la hauteur du nombre de déplacés dans ce camp. Beaucoup de gens n'ont pas reçu aucune assistance depuis 2 mois. Sur les 14 000 enfants, moi j'ai vu des cas de malnutrition évidents, des enfants avec le ventre distendu. 40% de ces 41 000 personnes ont le paludisme. J'ai pas vu une seule tente à moustiques dans ce camp. C'est vraiment difficile à décrire, je crois. Il faut vraiment être sur place et voir la misère dans laquelle ces gens se trouvent pour se rendre compte du problème. Je crois que c'est la côté visible du pays. Ça, c'est vraiment la crise visible. Le reste, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? Sur le chemin de Bossangoa, par exemple, la route, j'ai fait 100 km de route. Tous les villages de chaque côté étaient brûlés, certains brûlés, et d'autres complètement vides. C'est une vision très bizarre pour les gens qui connaissent l'Afrique, puisque normalement, c'est toujours, il y a des gens au bord de la route, il y a des enfants qui jouent, il y a toujours des activités, il y a des couleurs, tout est vide. C'est absolument effrayant. La question, c'est de savoir dans quelles conditions vivent les gens qui se sont déplacés, qui se sont enfuis dans la brousse, qui n'ont accès à aucune aide.
Ces personnes, ces familles ont peur de rentrer chez elles. Il y a un véritable climat de peur qui s'est installé.
C'est vraiment palpable à Bossangoa, dans un climat où justement l'État fait faillite. L'Église est le seul refuge pour eux. Et ils ne veulent absolument pas rentrer chez eux dans les conditions sécuritaires actuelles. Et même les ONG ont demandé qu'on déplace ces gens dans un autre camp. Ils ont refusé de quitter la mission. C'est incroyable de voir le travail de ces volontaires de la Caritas de Bossangoa, qui pour certains n'ont pas été payés depuis des mois, qui sont là. Et qui parlent avec ces gens, qui n'ont rien à leur offrir, mais qui sont là pour les écouter. Et cette fois, je veux dire, moi, je me réveillais le matin avec des gens qui priaient. La cathédrale est envahie, c'est-à-dire le soir, ça devient un dortoir. Donc vous endormez avec des prières, vous vous réveillez avec des prières. De se retrouver 4h du matin, 4h30, à entendre ces gens prier. Vous savez, cette espèce de murmure comme ça, c'est absolument émouvant et très impressionnant de voir ces gens qui sont tenus maintenant, je veux dire, c'est pas par l'aide alimentaire, mais par la foi. Et je dois dire que ça m'a beaucoup ému. Il y a une possibilité de régler le problème dans ce pays, mais alors il faut vraiment, mais vraiment agir vite. Parce que toutes les conditions sont là pour une descente aux enfers. Maintenant, le climat de peur et d'insécurité touche toutes les communautés.
C'était Valérie Caillé, chargée de communication de la Caritas Internationalis en Centrafrique. Elle était interrogée par Hélène Destombes. Un témoignage bouleversant à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Idriss Déby rend hommage à un homme de dialogue et de paix. Le président du Tchad a décrété 2 jours de deuil national pour honorer la mémoire de Mgr Mathias Ngateri Mayadi. L'archevêque de N'Djamena est décédé le 19 novembre dernier alors que la présidence tchadienne procédait à son évacuation sanitaire vers la France après un AVC. Mgr Mathias Ngateri Mayadi avait instauré en 2010 la journée nationale de la paix par la prière interconfessionnelle le 28 novembre. Il avait fait procéder notamment à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre écoute attentive, de votre fidélité. Prochaine émission, prochain rendez-vous demain, même lieu, même heure. D'ici là, n'hésitez pas, comme je vous le disais il y a quelques instants, à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va.